Donc, bon, ça, c'est les conséquences locales. Et puis, il y a les conséquences régionales. On sait que cette guerre, ils sont opposés les opinions publiques du monde arabe et musulman de manière massive, et les gouvernements. En tous les cas, officiellement, il n'y a aucun gouvernement arabe, par exemple, même pas le gouvernement koweïtien qui approuve ça. Donc, ça va encourager les oppositions à la politique américaine. Et comme ces oppositions n'ont pas de canaux d'expression normaux, parce que les gouvernements sont des gouvernements antidémocratiques, pas élus, etc., il y a un risque réel que ça facilite le recrutement des organisations terroristes. Les gens vont se dire, face à cette arrogance américaine et cette volonté américaine d'imposer leur volonté, il n'y a qu'une solution, c'est les actions terroristes. D'ailleurs, moi, j'ai été frappé dans la dernière période du nombre d'attentats anti-américains qu'il y a eu au Koweït, faits par des Koweïtiens, alors que les Koweïtiens ont été réellement sauvés par les Américains en 91. Et donc, maintenant, il y a une espèce de retournement. Je crois que ça aussi, c'est important. Enfin, la dernière conséquence, c'est sur le conflit israélo-palestinien. Il y a des gens qui rêvent que au lendemain de la guerre, on va avoir quelque chose du niveau de ce qui s'était passé en 91, c'est-à-dire la conférence israélo-palestinienne de Madrid, israélo-arabe de Madrid, les négociations israélo-palestiniennes, etc. Mais il ne semble pas du tout que les États-Unis soient dans cette logique, dans la mesure où leur appui au gouvernement Sharon a été inconditionnel depuis plus de 18 mois. Inconditionnel dans la répression de l'intifada, inconditionnel dans la mise à l'écart de l'autorité palestinienne. Et je crois qu'il est complètement illusoire de penser que demain, cette administration Bush va faire un bras de fer avec Sharon pour lui imposer une solution pacifique du conflit israélo-palestinien.